grand reportage.
Cette émission est une rediffusion.
Au Venezuela, l'ancien paradis du pétrole, Maracaibo, est devenu le symbole de la descente aux enfers du pays. Cette ville, la deuxième du Venezuela, était la plus prospère et la plus moderne quand le pétrole coulait à flot. Mais avec la crise économique, Maracaibo est à la dérive et les habitants sombrent dans la misère. Maracaibo, la ville de tous les maux du Venezuela, c'est un grand reportage de Benjamin Delisle.
Hola.
Le soleil vient de disparaître derrière les gratte-ciel de Maracaibo. Depuis la terrasse de son appartement au troisième étage, Maria Carolina observe son quartier sombrer doucement dans l'obscurité.
Depuis 14h41, le service électrique est suspendu. Ça nous arrive tous les jours. Parfois, un jour de week-end, il se peut qu'ils nous respectent et nous laissent de l'électricité pendant 24 heures consécutives. Mais en général, sur les 7 jours de la semaine, l'électricité est coupée au minimum pendant 6 jours.
Elle essuie la sueur qui perle sur son front. À Maracaibo, le mercure frise les 40 degrés en journée et les nuits sont chaudes. Sans électricité, impossible de se rafraîchir. Et même avec, c'est de plus en plus difficile, s'agace cette jeune maman.
J'ai 3 climatiseurs cramés, j'ai 1 micro-ondes cramé, j'ai 3 ordinateurs cramés à cause des coupures électriques. Car quand le courant revient, il y a une surcharge qui fait tout griller.
Depuis les grandes coupures nationales du mois de mars qui ont plongé le Venezuela dans le noir, l'état de Zulia où se trouve Maracaibo est le plus affecté par la crise du secteur de l'électricité qui sévit. Les autorités ont mis en place un rationnement forcé qui touche à tour de rôle la plupart des quartiers de la ville pour des durées qui varient entre 3 et 12 heures. C'est bien plus que dans la majorité des villes du pays, en particulier Caracas, la capitale.
Hola.
Buenas.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sous couvert d'anonymat, un ancien fonctionnaire de Corpoelec, la société nationale d'électricité, explique pourquoi cette région du Nord-Ouest est si durement touchée.
L'état de Zulia est au bout de la chaîne de distribution de l'électricité, car la seule chose qui fonctionne, mais très faiblement, ce sont des machines hydroélectriques qui viennent de Gouri au sud-est. Maracaibo et l'état de Zulia ont une demande d'environ 2000 MW. Des 10 000 MW que produit actuellement Gouri, Caracas en consomme 2000, donc il reste 8000 MW à répartir dans tous les autres états du pays. Zulia, qui est en bout de chaîne, ne reçoit que 300 ou 400 MW, donc évidemment, il faut rationner.
La crise de l'électricité n'est qu'un des nombreux défis auxquels doit faire face la ville de Maracaibo. Lorsqu'on demande à Juan Berrios Ortigosa, un humanitaire, quel est le principal problème de cette ville de plus d'un million d'habitants, il se creuse la tête.
Le principal problème, eh bien, il y a beaucoup de problèmes.
Il est coordinateur de la CODES, la Commission pour les droits de l'homme dans l'état de Zulia, une association qui ne sait plus où donner de la tête. Après réflexion, il avoue que l'accès à l'eau est probablement le défi numéro un de nombreux maracuchos.
Si on fait une moyenne sur toute la ville, les quartiers encore fournis reçoivent de l'eau tous les 20 ou 25 jours. Et cela dure à peine 12 ou 24 heures. Mais d'autres secteurs ne reçoivent plus d'eau depuis un an, depuis 6 mois, voire même 3 mois.
Nous sommes dans le quartier de Los Aticos, où la plupart des habitants n'ont plus d'eau depuis parfois plusieurs années. Ils ont dû détourner des tubes de la mairie pour pouvoir avoir de l'eau chez eux. Et évidemment, les conditions sanitaires sont désastreuses. Il y a énormément de maladies ici. Dans ce quartier du sud de Maracaibo, les rues sont vides à cause de la chaleur étouffante. Des tuyaux d'arrosage, raccordés les uns aux autres par des bouts de scotch, vont de maison en maison.
Tous ces tuyaux sont reliés à l'autre partie de Los Aticos.
Maria, une riveraine.
On a installé entre 50 et 100 mètres de tuyaux. Avec ça, on alimente cette rue et la suivante. Sinon, dans tout le reste du quartier, il n'y a plus une goutte d'eau.
Quand elle arrive, l'eau est ferreuse et sale, mais au moins elle arrive une fois par mois. Le reste du quartier est condamné à trouver d'autres solutions. Mercedes, par exemple, est trop loin de la rue principale pour se raccorder aux tuyaux.
Par ici, on a essayé de profiter des pluies pour récupérer l'eau. J'ai installé ces cuves en plastique et quand il pleut, l'eau s'y déverse du toit. C'est avec cette eau qu'on survit.
Mais selon Maria, c'est une technique risquée. D'abord parce que la saison sèche arrive et les cuves vont se vider rapidement. Ensuite, parce que cela attire des moustiques.
Ce sont des puits où l'eau stagne depuis longtemps et du coup, il y a la dengue, la diphtérie, des maladies qui avaient pourtant disparu ici. Rien que dans ma rue, il y a 5 gamins qui ont la dengue.
Selon Orlando Chacon, un jeune militant de l'opposition qui vient souvent dans le quartier, les plus isolés dans l'accès à l'eau sont les personnes qui, faute de pouvoir se construire une maison de fortune, ont décidé de squatter des immeubles désaffectés.
Tous les bâtiments qui sont abandonnés sont envahis. Les conditions ne sont pas réunies pour transformer ces bâtiments en logements. Ils symbolisent la chute de tous les services publics.
On est devant un grand immeuble en apparence abandonné qui est en fait occupé par des habitants du quartier. On le voit par les fenêtres qui ont été recouvertes de carton ou de blocs de ciment ou des blocs de briques. Il y a environ 12 étages et ici il n'y a ni eau ni électricité. Avant c'était des bureaux qui ont été abandonnés. On est juste à côté du lac Maracaibo. Dites-nous, comment est-ce que les gens vivent ici?
Ici, il n'y a pas de service public. Les services publics auxquels ils ont accès, c'est par des raccordements illégaux au réseau voisin. Pour l'eau, ils installent des tuyaux à des pompes électriques. Mais quand il n'y a pas d'électricité, l'eau ne monte plus. La plupart utilisent des seaux pour monter l'eau chez eux. Il n'y a pas de gaz, donc ils doivent acheter des bonbonnes pour faire la cuisine. Beaucoup utilisent l'eau du lac pour se doucher. Et c'est ça qui a augmenté les maladies de peau dans le secteur.
La maladie qui prolifère le plus, c'est la gale, selon Orlando Chacon.
À cause du prix actuel d'un savon ou de n'importe quel produit d'hygiène personnelle, les gens ne les achètent pas. Quand ils se lavent avec cette eau sans savon, la peau s'abîme et c'est un terrain fertile pour la bactérie.
De nombreux habitants de cet immeuble sont touchés. Impossible d'y pénétrer en revanche. Selon Orlando, des délinquants profitent de ces grands squats pour y garder de la drogue et des armes. Il suffit de traverser la rue pour comprendre à quel point la gale infeste la zone. Omar, par exemple, le père de Maria, l'a contracté il y a plusieurs semaines.
On m'a dit que c'était à cause de la chaleur et aussi de l'eau. J'ai plein de boutons et ça me démange énormément.
Son visage et ses bras sont couverts de cicatrices et de furoncles. Il n'a évidemment pas les moyens de se soigner correctement. C'est d'ailleurs un autre défi auquel doivent faire face les habitants, l'accès à la santé. L'hôpital le plus proche est à moitié en ruine. Un jeune homme du quartier est mort le mois dernier parce qu'il n'a pas pu être pris en charge.
Pour pouvoir l'opérer, il fallait ramener 5 litres d'eau et le reste du matériel coûtait $300, sans compter les antibiotiques. Et une fois qu'on a tout acheté, ils n'ont pas pu l'opérer parce qu'il n'y avait plus de salle d'opération disponible avec de l'air conditionné.
Tous les hôpitaux de la ville font face au même problème. Pour y entrer, il faut se faire passer pour un patient car des militaires surveillent jour et nuit qui va et vient. À l'hôpital central de la ville, a priori l'un des mieux lotis, les murs sont recouverts de fissures, parfois de trous béants. Les patients errent dans les couloirs poussiéreux, les chambres se résument à un lit de camp et à un petit lavabo qui ne fonctionne plus. Un médecin accepte de témoigner anonymement.
Ici, il n'y a pas d'eau, l'électricité est intermittente, pas de médicaments, les patients doivent les acheter eux-mêmes et je ne vous parle pas du matériel. Par exemple, on ne peut plus faire de radio depuis 4 ans.
Bien que désespéré par la situation calamiteuse de son hôpital, il ne se voit pas quitter son poste.
À un moment, j'ai pensé intégrer Médecins Sans Frontières ou la Croix-Rouge Internationale. Mais en fait, travailler ici, c'est comme faire de l'humanitaire dans un hôpital africain.
Ce n'est pas le salaire qui le retient. Il touche à peine plus du revenu minimum mensuel, soit l'équivalent d'une dizaine d'euros. S'il continue de travailler, c'est par passion du métier et grâce à ses proches.
On s'occupe de moi. Je peux travailler ici grâce à une tante et un oncle qui, par chance, eux, ont un travail. Ils m'offrent la nourriture et le logement.
Rares sont les maracuchos qui vivent encore de leur propre salaire. La plupart des habitants de la ville sont entretenus par des proches. Et selon Juan Berrios Ortigosa de la CODES, la plupart de ses proches envoient l'argent depuis l'étranger.
El año pasado...
L'an passé, l'immigration affectait 5 foyers sur 10. Cette année, on est passé à 7 foyers sur 10. Donc, il y a une augmentation du nombre de personnes qui ont un père, une mère, un fils, un frère ou un conjoint à l'étranger. Et généralement, ses proches maintiennent la famille qui est restée à Maracaibo.
Un soutien essentiel car paradoxalement, Maracaibo est devenue la ville la plus chère du Venezuela devant la capitale Caracas. C'est donc une ville très pauvre devenue hors de prix.
Cela s'explique par le fait que l'on est dans un état frontalier.
Ezio Angelini, président de la Chambre de commerce.
Les coûts sont élevés pour ramener la marchandise de Colombie et on estime que 60% des produits qu'on trouve ici sont colombiens. L'exemple le plus grave, ce sont les médicaments. Si tu vas dans une pharmacie, plus de 70% des produits sont colombiens. Et sans ces produits, on ne se soignerait pas. Il n'y a pas d'autre solution.
À cause de l'inflation, également plus rapide que dans le reste du pays, les commerçants préfèrent se tourner vers la Colombie voisine, à seulement 2 heures de route, pour s'approvisionner en tout type de produits. Résultat, le bolivar plonge, et ce sont les devises étrangères qui sont désormais la référence à Maracaibo.
Plus de 90% de l'économie est dollarisée. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que du liquide en dollars. La dollarisation veut dire que quand tu paies un café, cela te coûte l'équivalent d'un dollar au taux de change du jour. C'est la seule manière pour les commerces de gérer leurs inventaires pour contourner l'inflation, pour pouvoir survivre.
Nous sommes au marché de Las Pulgas, qui est autrefois le plus grand marché d'Amérique latine et qui est devenu un marché totalement informel. Les locaux sont totalement fermés. La viande est posée sur des tables en bois, sur des bouts de carton. Il n'y a aucune réfrigération. Et tout ici, ou presque, vient de Colombie et correspond à du marché informel.
Dans ce marché improvisé, tous les commerçants ont plusieurs casquettes, comme César, par exemple, devenu boucher cette année.
Moi, je travaille aussi pour une entreprise de sécurité. Je dois multiplier les boulots parce qu'un seul, ça ne suffit pas.
Selon lui, tout le monde vit ici dans une grande précarité. Et avec les coupures d'électricité, le manque d'eau, les problèmes d'approvisionnement, il est difficile d'être rentable.
Aujourd'hui, il y a déjà eu 3 chutes de tension. Ça abîme les frigidaires et les chambres froides. Quand leur moteur crame, vous pensez que ça nous coûte combien ? Beaucoup trop cher.
Derrière les comptoirs, on peut tomber sur tout type de vendeurs comme des retraités ou de jeunes étudiants. Ceux-là sont souvent obligés d'abandonner leurs études pour gagner de quoi se nourrir. De fait, les couloirs de l'université de Zulia, la principale de la ville, sont de plus en plus vides. Carmen y fait des études d'ingénieur.
Il y a une désertion étudiante. Chaque jour, il y a moins d'étudiants parce qu'il n'y a plus de transport public, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. On fait face à un choix, où tu t'occupes de ta famille en travaillant, où tu étudies. Faire les deux en même temps, c'est très compliqué.
Elle attire l'attention sur le fait que les étudiants ne sont pas les seules victimes de la crise à l'université, loin de là.
Ce sont les professeurs qui vivent la situation la plus déprimante. Quand ils arrivent en classe, il n'y a plus de matériel. Le professeur abandonne toutes les technologies et fait son cours à l'ancienne, sur des tableaux verts, avec des craies. Il n'utilise même plus les salles de cours parce qu'à cause des coupures, on n'a plus de clim et la chaleur d'ici n'aide pas. Donc les professeurs font leurs cours dehors, à l'air libre. Et évidemment, leurs salaires sont insuffisants. Ceux qui donnent encore cours le font par vocation, pas pour ce qu'ils gagnent. Ils sont chaque jour un peu plus maigres.
Pour ceux qui n'ont pas la chance de multiplier les petits boulots ou d'avoir des proches à l'étranger, l'accès à la nourriture est une angoisse de tous les instants. Et cela concerne beaucoup d'habitants, à en croire Juan Berrios Ortigosa.
Un foyer sur 4 ne mange pas le matin. 3 sur 10 ne dînent pas. Pour ces 2 repas, ceux qui mangent se contentent d'une galette de maïs et d'un bout de fromage. Pour le déjeuner, les gens mangent surtout du riz et des pâtes.
Dans le quartier Milagro Norte, qui ressemble plus à un bidonville avec ses rues terreuses et ses maisons de tôle et de parpaings, la malnutrition est reine. Glenny passe ses journées à chercher désespérément un peu de nourriture pour elle et ses enfants.
Je les laisse ici et je pars chercher à manger, mais je ne peux pas aller loin. Ma mère cherche aussi. Généralement, on mange tard, pas avant 15-16 heures, parfois rien avant le soir. Et eux, ils crient, ils pleurent parce qu'ils ont faim. Ici, on ne prend jamais de petit déjeuner.
À côté d'elle, son fils rampe car il est si maigre qu'il ne peut plus marcher. Sa fine peau peine à masquer ses os saillants. La petite sœur ne parle plus, elle se contente de porter sa main à la bouche pour réclamer de quoi manger. Le premier semble être adolescent, la seconde à peine sortie de la petite enfance. Et pourtant...
Miguel a 28 ans, Anaïs a 16 ans. Mais il manque de vitamines. Avant, ils n'étaient pas comme ça, ils étaient plus gros.
Lorsqu'on essaie de comprendre l'origine de cette misère qui infeste désormais la ville, tous les acteurs locaux tournent leur regard vers le lac et ses centaines de puits de forage. Aujourd'hui, la plupart sont abandonnés. Ils laissent s'écouler le précieux pétrole qui vient choir sur les rives noircies du lac. Autrefois, ils étaient la richesse de cette ville qui promettait d'être la plus moderne du Venezuela, selon Ezio Angelini de la Chambre de commerce.
Maracaibo produisait 1,5 million de barils par jour. Nous sommes la ville pétrolière par excellence. On avait même un tourisme pétrolier. Et puis, la production n'a cessé de baisser et maintenant, je crois qu'on produit environ 250 000 barils par jour. C'est un désastre total.
Un désastre qui s'observe en particulier dans la périphérie industrielle de la ville. Depuis sa voiture, une journaliste locale nous montre les installations vieillies, les centrales thermoélectriques qui ne tournent plus ou encore la principale raffinerie pétrolière de l'État.
Apparemment, elle ne tourne qu'à 30-35% selon ce que j'ai entendu dire. Mais regarde, elle est dans un état de quasi-abandon. Les installations sont toutes oxydées. Et ici, ce qu'on voit, c'est l'usine de distribution d'essence. Ce sont deux des principales installations pétrolières du pays. Et regarde dans quel état elles sont.
Un tel délabrement qui entraîne des pénuries d'essence dans un pays qui détient pourtant les plus grandes réserves de pétrole du monde. À Maracaibo, il y a des queues devant toutes les stations-service. Tout un marché parallèle s'est développé sous l'impulsion des fonctionnaires mal payés de PDVSA, l'industrie pétrolière publique. Les revendeurs ne se cachent même plus, ils exhibent leurs bidons d'essence en pleine rue, comme José qui fait le plein d'un client devant sa maison.
C'est pour ne pas perdre de temps à faire la queue. Les gens qui travaillent ne peuvent pas passer des heures à attendre. Donc ils viennent ici. Moi, on m'amène l'essence, j'achète ici, chez moi.
Mais qui sont les personnes qui vous l'amènent? Des gens de PDVSA?
Non, disons que ce sont des voitures de particuliers.
Ces revendeurs facturent 1 dollar le litre d'essence en moyenne. C'est peu si l'on regarde les prix internationaux, mais c'est hors de prix pour les Vénézuéliens habitués à une essence presque gratuite depuis des décennies. C'est totalement absurde, commente un spécialiste du pétrole vénézuélien, Evaristo Pérez Suarez. Cet homme se dit pourtant bolivarien, il continue de soutenir le gouvernement de Nicolas Maduro.
L'apparition et l'exploitation du pétrole a entraîné 3 désastres. Un désastre écologique, un désastre social et un désastre économique. Nous avons hérité d'un lac pollué. Nous sommes victimes d'une pénurie d'infrastructures parce que le réinvestissement de tout le pétrole de l'État de Zulia a été très précaire, très pauvre. Et aujourd'hui, les habitants ont de la rancune, qu'ils soient d'opposition ou bolivariens.
Et cette rancune ne risque pas de se dissiper de sitôt, car aucun signe d'amélioration n'est en vue. Selon l'ancien fonctionnaire de Corpoelec, l'État n'a d'abord plus les moyens de relancer la production de pétrole et d'électricité. Et surtout, il n'a plus le personnel qualifié.
Il y a beaucoup de professionnels qui ont...
Il y a beaucoup de professionnels qui ont quitté ces industries. D'abord parce que les salaires sont très bas. Ensuite, par peur d'être emprisonnés, parce que s'ils occupent un poste assez important, ils peuvent être accusés de n'importe quel problème qui peut survenir. J'ai un ami qui est interdit de quitter le territoire à cause de la grande coupure d'électricité. On l'a accusé d'être putschiste. Donc plus personne ne veut occuper ces postes, parce que dès qu'il y a un problème, ils vont être accusés de sabotage.
Malheureusement pour ses habitants, l'avenir de Maracaibo est aussi sombre que ses rues après le coucher du soleil ou que les rives de son lac couvertes de cet or noir qui faisait jadis la richesse de tout le pays.
Maracaibo, la ville de tous les maux du Venezuela, un grand reportage de Benjamin Delisle, réalisation Pierre Chaffonjon. Por el olvido en que se encuentra su región.